Je suis Jean-Louis Thiébaud, je suis professeur de sciences politiques. J'étais pendant longtemps en poste à l'Institut d'études politiques et je suis devenu le directeur de cet institut le 1er janvier 1997 et j'y suis resté pendant deux mandats, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2007. J'ai beaucoup travaillé sur la politique comparée et pendant un premier temps, en fait, je travaillais essentiellement sur les pays d'Europe occidentale. C'était dans les années 80 et 90. Et puis, je suis devenu directeur, donc j'ai plus fait de recherche pendant 10 ans. Et c'est à la fin de mon second mandat, lorsque j'ai pensé qu'il serait bien de retrouver mon métier d'enseignant et de chercheur, surtout, que j'ai décidé de travailler sur une analyse politique des pays émergents. Et donc, j'ai voyagé beaucoup pour connaître ces pays émergents, notamment en Asie. Je suis allé en Chine, je suis allé en Inde, je suis allé à Singapour. Ensuite, j'ai décidé également de consacrer une partie de mon temps à l'enseignement et notamment dans des universités étrangères. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Canada et aux États-Unis depuis 4 ans.
Alors c'est vrai que si on prend un pays immense comme la Chine, personne n'en parlait il y a 10 ans, 20 ans, et quand on en parlait vraiment très mal, de façon relativement fantaisiste. Mmh. Est-ce que le regard sur la Chine a beaucoup changé? Qu'est-ce qui vous a intéressé là-bas et qu'est-ce que vous trouvez de positif?
Moi, ce qui m'a intéressé dans ce pays, c'est le décalage qui existe entre, d'une part, un développement économique particulièrement fort, une croissance élevée, une ouverture assez grande aux investissements étrangers, et puis, d'un autre côté, une absence de développement politique, c'est-à-dire le refus d'envisager un processus de transition vers la démocratie. Et au contraire, en fait, c'est la volonté de maintenir le caractère de monopole du Parti communiste chinois. Alors ça fonctionne bien à l'heure actuelle, mais pendant combien de temps? C'est-à-dire au fur et à mesure que le niveau de vie des Chinois, ou tout au moins le niveau de vie d'une majorité de la population chinoise augmente, il risque d'y avoir, et il y a déjà un certain nombre de protestations, un certain nombre de manifestations. Il y a une classe moyenne qui se constitue et peut-être qu'il y a il y aura la démocratie au bout, mais dans combien de temps? C'est peut-être l'an prochain, mais ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que la plupart des théoriciens sur la démocratie disent qu'à partir d'un certain niveau de richesse, un pays connaît inévitablement la démocratie, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas.
On peut considérer qu'aujourd'hui, le développement n'est pas fini, qu'on est encore dans un début de processus?
Ah, bien sûr, oui. De toute façon, on n'est même pas véritablement dans un processus de libéralisation politique. On le voit très bien régulièrement dans la presse, en lisant la presse.
Est-ce que les étudiants que vous formez pour partie sont chinois?
Pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai connu quelques-uns, mais la plupart du temps, ils venaient de Hong Kong.
Alors Hong Kong, maintenant, c'est la Chine?
Oui, mais avec un statut spécial. Hein. C'est une région autonome, avec un régime politique qui n'est certainement pas démocratique, mais qui dispose d'une ouverture un peu plus grande en fait qu'en Chine. C'est-à-dire il y a notamment une liberté d'expression, liberté de presse qui est un peu plus forte qu'en Chine. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un peu meilleur.
Alors vous connaissez également Singapour qui est dans la zone d'influence quand même. Comment ça se passe entre ces pays, entre ces régions?
Pour les Chinois, en fait, Singapour constitue une sorte de modèle. C'est-à-dire qu'on a là aussi l'exemple d'un pays où vous avez un fort développement économique, une croissance énorme, plus de 15% je crois par an, et puis un système politique qui reste autoritaire. Simplement, il y a de grandes différences entre Singapour et la Chine. Singapour, c'est un petit pays, hein, c'est une île, 4 millions, 5 millions d'habitants. La Chine, c'est 1 milliard, 300 millions d'habitants. Mais il est vrai aussi qu'à Singapour, on a une large majorité de la population qui est chinoise, qui est d'origine chinoise. Donc, il peut y avoir en effet une influence. Mais je crois que le cas le plus intéressant à l'heure actuelle, peut-être c'est pas Singapour, c'est Taïwan. Parce que Taïwan, en fait, montre que dans le monde chinois, il est quand même possible de mettre en œuvre la démocratie. Et que la démocratie a aussi une vocation universelle, en fait, et qu'elle n'est pas restreinte par un certain nombre de limites, les valeurs asiatiques par exemple, ce qui a été mis en avant. Donc il y a la possibilité certainement de faire de la démocratie dans ces pays.
Si on fait un parallèle avec les États-Unis, puissance dominante actuelle, est-ce qu'on peut imaginer des évolutions très importantes? Bon, on a parlé d'économie, est-ce que l'économie peut aussi engendrer des modifications politiques qui ne seraient pas forcément complètement démocratiques, puisque le modèle dominant peut changer aussi la donne en termes politiques, non?
Oui, il peut y avoir en effet des modifications progressives qui se produisent. Mais dans ce type de régime autoritaire, les évolutions progressives sont extrêmement difficiles à réaliser, en fait. Et on l'a, il y a un certain nombre d'exemples qui le montrent en Europe de l'Est ou dans d'autres pays, en Amérique latine ou même en Asie aussi, ou en Afrique aussi. Très souvent, si vous voulez, je crois que la rupture, une rupture très très forte est difficile à réaliser. Le meilleur exemple, si vous voulez, c'est une comparaison entre la Chine et l'Union soviétique. Les soviétiques, avec Gorbatchev, ont essayé de commencer par le politique, avec la perestroïka, etc. Donc c'était transformer le régime politique, le système politique. Et puis ensuite, on fera l'économie. Les Chinois ont adopté une position inverse, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord transformé leur économie, décidé en effet qu'il fallait libéraliser d'abord l'économie et puis ensuite, et seulement ensuite, mais on ne sait pas quand, libéraliser le système politique. Il y a deux situations différentes en fait et qui sont extrêmement intéressantes à analyser parce que en Chine, il n'y a pas de bing-bang. Alors qu'en Union soviétique, il y a eu ce bing-bang aussi. Et ça, c'est...
Finalement, on est dans une situation atypique pour quelqu'un qui étudie la politique et qui la pratique, qui l'enseigne. C'est quand même, pas un contre-modèle, mais quelque chose qui surprend.
Oui, c'est quelque chose qui surprend. De toute façon, lorsqu'on quitte les pays occidentaux, les pays européens ou les pays occidentaux, on a toujours des surprises, en fait, parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Il y a toujours des différences importantes entre les pays, en fait. Il y a peut-être une mondialisation, mais chaque pays conserve sa culture, chaque pays conserve ses traditions politiques, et donc c'est un élément dont il faut tenir compte.
Est-ce que pour un pays, la France par exemple, ou un pays occidental, ce n'est pas un peu rêver ou se faire des illusions que penser qu'on peut plaquer dans un pays émergent une forme politique quelconque?
Bien sûr que c'est une illusion. Je crois que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Il y a toujours un processus d'apprentissage qui est nécessaire, qui peut durer plus ou moins longtemps, qui a tendance parfois à s'accélérer dans un certain nombre de pays parce qu'il y a quand même des modèles. mais ça ne se réalise jamais du jour au lendemain. Donc il ne faut pas penser que ce qui se passe avec le printemps arabe, ce qui se passe avec un certain nombre d'évolutions qui sont en train de se produire en Afrique, que ces pays vont connaître la démocratie du jour au lendemain.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de prétention pour nos pays que prétendre vouloir que le monde soit à son image ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une trop grande prétention, en fait. Je crois qu'on est... Il y a une volonté de vouloir imposer un certain type de modèle à travers le monde, et je crois que c'est une illusion.
C'est juste pour se rassurer ?
C'est peut-être aussi pour se... C'est aussi pour se rassurer, mais c'est aussi parce qu'on a l'impression parfois qu'on n'a pas appris, on n'a pas retenu un certain nombre de leçons depuis le colonialisme, en fait, où on a essayé d'imposer nos modèles politiques. On a été d'échec en échec et on n'a jamais retenu les leçons, en fait.
Si vous aviez, j'allais dire, un conseil, une idée d'avenir ?
Je pense qu'en dépit de ce que j'ai pu dire, hein, je pense que je suis assez optimiste sur une marche vers la démocratie. Je crois que ça sera très long. La démocratie, même dans les pays occidentaux, n'est pas parfaite. Je crois que ça sera un processus très long à mettre en œuvre. Et je pense qu'il y aura des retours en arrière parfois. Mais il y a toute une série d'éléments qui me rendent assez optimiste. L'action des institutions internationales, des organisations internationales, l'action des institutions régionales aussi. C'est grâce en fait à l'Union européenne, ou ce qui était avant la Communauté économique européenne, l'Espagne, le Portugal... La Grèce ont connu un développement démocratique après la chute de Franco, des colonels ou du docteur Salazar.
Ils commencent à le payer quand même maintenant, non ?
Oui, bien sûr, mais c'est vrai, mais il faut tenir compte du fait que ces pays, et c'est notamment le cas de la Grèce, ont toujours eu en fait un état très faible. Alors c'est le résultat de circonstances historiques. L'état a toujours été très faible. Et l'état en Grèce est un état qui est un état donc clientéliste en fait. Hein, où l'état a été utilisé par les hommes politiques de droite comme de gauche pour... donner des emplois, beaucoup d'emplois dans la fonction publique nationale ou dans la fonction publique territoriale. Donc il y a des pratiques de clientélisme qui sont assez anciennes et qui coûtent très cher. Et donc l'État, en fait, est toujours un État très faible. Hein, et on le voit bien, cette espèce d'incapacité qu'il peut avoir à récolter l'impôt.
Voilà, mais tout ça n'est pas réglé et il y a de grands chantiers pour demain.
D'accord.
Merci beaucoup.